Comment est-ce que vous avez vécu ces 10 ans de procédure?
Une procédure judiciaire qui n'en finit pas, comment vous dire, ça pollue et ça colonise l'existence. Et c'est pas parce que la qualification terroriste, elle est tombée, que les méthodes antiterroristes, elles, ont disparu. Et pour simple preuve, on vient d'apprendre que les policiers réclament l'anonymat à l'audience, comme la loi de 2015 sur le renseignement leur permet. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors qu'on mélange le renseignement et le judiciaire, c'est toujours le renseignement qui le gagne. Ça, c'est assez simplement ce qu'on appelle une police politique. Et la plus belle illustration que je connais, c'est un film qui s'appelle La vie des autres, que je conseille à tout le monde de regarder.
Pourquoi c'est pénalisant pour vous que les policiers, donc les enquêteurs qui vont témoigner, soient anonymes?
C'est un problème parce qu'en fait, on ne peut pas être confronté aux personnes qui nous ont accusés de certaines choses. Pour vous donner un exemple concret, dans notre affaire, il y a certains policiers qui ont des dons d'ubiquité, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils prétendent être en surveillance sur Julien et moi, au même moment, ils signent un PV à Levallois-Perret. Donc comment font-ils pour être à deux endroits en même temps? 10 années d'une telle procédure, je pense, elle laisserait personne indemne. La justice, c'est quelque chose qui suspend votre existence et ça vous confisque toute capacité à vous projeter dans le temps sur quelque plan que ce soit. Moi, j'ai 35 ans aujourd'hui et j'en avais à peine 25 au moment de mon arrestation, ce qui représente un tiers de mon existence. Moi, ce que j'attends de ce procès, bah, c'est simplement la relaxe, même plus, je devrais dire 8 relaxes.
Est-ce que oui ou non, vous reconnaissez que vous avez été en Seine-et-Marne sur les lieux et au moment où les dégradations ont été commises?
Absolument pas, puisqu'à 2h44, je retirais de l'argent avec ma carte bleue à Pigalle, donc j'étais à Paris, contrairement à ce que disent les enquêteurs. Et franchement, qu'on arrête de dire pourquoi elle ne l'a pas dit plus tôt, pourquoi elle ne s'en est pas souvenue, etc. Si j'avais construit un alibi en filant ma carte bleue à une tierce personne, je l'aurais effectivement dit plus tôt. Franchement, la manipulation ici, elle est policière. Comme toujours dans ce dossier, la manipulation, c'est d'avoir attendu des années pour faire rentrer au dossier cette opération de carte bleue. Et puis franchement, surtout, les policiers, ils écrivent noir sur blanc qu'on savait qu'on était suivis. Nous, on a toujours dit qu'on savait qu'on était suivis. Du coup, ce qui se passait, c'est beaucoup plus un jeu du chat et de la souris, et ça pendant plusieurs heures. Et on veut faire croire que deux personnes qui se savent suivies vont commettre une infraction. Franchement, qui peut croire une bêtise pareille? Aujourd'hui, ça relève juste du bon sens.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce soir et cette nuit-là?
Bah, nous, on savait qu'on était surveillés depuis déjà un certain temps. Il faut savoir que vivre sous surveillance quand on n'en comprend pas exactement les raisons, c'est pénible et franchement, ça fait peur, en fait, assez simplement. Et donc, du coup, à un moment donné, on en a marre, on se dit, on va sortir de Paris, on va partir à la campagne, etc. Et là, on arrive dans la campagne, on se rend compte que bah, même au fin fond de la campagne, on est toujours suivi où qu'on aille. C'est là où va se mettre en place ce jeu du chat et de la souris. Par contre, matériellement, nous, on n'a jamais su exactement où on était, à part la pizzeria et l'hôtel où on a demandé où dormir. Mais sinon, on n'a jamais su exactement où on était. Tout le monde nous dit toujours, ah, mais quelle coïncidence! Et en fait, bah, si on regarde une carte de France et de Paris, où ont lieu les différents points de sabotage dans la nuit du 7 au 8, en fait, où qu'on soit entre 1h et 2h de Paris, on est près d'un point de sabotage, sauf si on était parti plein ouest. Erreur stratégique, on aurait dû aller au bord de la mer. Et puis de l'autre côté, on était, entre guillemets, à leurs yeux, j'imagine, des bons clients, dans le sens où on n'a pas de portable, on n'utilise pas ces moyens-là, donc en fait, on n'aura personne pour pouvoir justifier de notre présence, en fait, personne. Et aucun élément matériel à ce moment-là, mais juste parce qu'à ce moment-là, pour moi, retirer de l'argent pour acheter les clopes, c'est un acte anodin du quotidien, et donc c'est juste que j'en ai pas le souvenir à ce moment-là. Mais franchement, si ce retrait, il avait été mis au dossier le 8 novembre, ce qui aurait été normal et ce qui a été le cas pour tous les autres mises en examen, sauf moi quand même, il faut le savoir. La super numéro 2 de je sais pas quoi, le groupe de je sais pas quoi, ces comptes, ils rentrent pas, tout le monde s'en fout.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments importants qui ont été écartés de l'enquête?
Oui, plutôt. Je ne suis pas certaine que 3 semaines d'audience, ça suffise pour lister tous les éléments importants qui ont été écartés pour tenter de fabriquer une culpabilité. Pour prendre ne serait-ce qu'un exemple, la revendication. Parce que les actes de dégradation qu'on tente de nous imputer ont été revendiqués, et ce, avant même nos arrestations. Revendiqués par le mouvement antinucléaire allemand. Et en 10 ans de procédure, on n'a pas trouvé le temps d'interroger les destinataires de cette revendication. Par contre, on a eu le temps d'envoyer des gens pour interroger la nounou de Julien en Autriche. Donc pourquoi cette revendication, elle a été balancée aux oubliettes? Au nom de quoi? Je sais pas, vous connaissez beaucoup des procédures, vous, ou des infractions, elles sont revendiquées dans la plus grande indifférence. Des dossiers où les juges décident arbitrairement qu'une revendication ne vaut rien.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et quels sont vos projets?
À court et moyen terme, la relaxe. Sinon, dans la vie, plus globalement, je travaille, hein, comme bon nombre d'habitants de ce pays, et je continue de participer à des luttes qui me sont chères, comme également bon nombre d'habitants de ce pays.
Comment est-ce que vous décririez votre engagement politique, vous qu'on a présenté à l'époque comme membre d'un groupe d'ultra-gauche, anarcho-autonome et prêt à commettre des actions violentes ?
Forcément, ça me fait sourire, votre question. Franchement, le groupe de Tarnac, ça n'existe pas, d'accord ? Ça n'a jamais existé. C'est une construction. C'est une fiction politique, puis policière, puis judiciaire. Et puis médiatique aussi. Hein. Ce groupe, il a commencé à exister, on pourrait dire, pour lutter contre une procédure, pour se défendre collectivement. Personnellement, je me sens ni anarchiste, ni ultra. Et sur un échiquier politique qui ne m'appartiendra jamais, si je dois me définir, je dirais plutôt que je suis communiste, mais pas au sens du parti communiste, au sens du commun. Je crois en une perspective révolutionnaire, et c'est-à-dire assez simplement que je crois au bouleversement possible de l'ordre des choses, et donc à la transformation du monde. Je réfute l'idée que le capitalisme occidental serait le seul horizon possible. Ma formation, à moi, c'est préhistorienne. Du coup, ça a construit mon rapport au monde, et 2000 ans d'histoire à l'échelle de l'humanité, désolé, mais c'est bien peu.